Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Visite de la cathédrale. Eh bien, on poursuit, et comme l'après-midi se déroule, c'est le moment de la messe. Et je peux vous dire que nous sentions cette atmosphère de prière. C'est priant. Je vais m'asseoir un peu, mon collègue aussi, nous sommes fatigués évidemment du voyage, nous sommes partis très tôt de Toronto, pour arriver à Mexico, alors je m'assois un petit peu, j'ai besoin de m'asseoir. Et là, je pense pas. Vous savez, ça fait du bien de ne pas penser parfois. Ça fait du bien. On pense à rien. On pense qu'on est fatigué, ça c'est une chose, et on s'assoit. Et là, on pense à rien. Nos yeux s'arrêtent ici et là. On prend le temps de respirer, mais on pense à rien. Mais on vit. On vit. On vit quelque chose qui est bien plus profond que ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on vit? On vit la vie. La vie, c'est aussi de s'asseoir. C'est de respirer. C'est de regarder. Et dans cette ambiance de prière, mon cœur était heureux. Je me disais, comme on est bien dans la maison de Dieu, avec tout ce monde que je ne connais pas, mais qui sont si près de moi par leur prière. Et il y a tant de petites chapelles où il y a les saints et les saintes. Sainte Thérèse, on la voit partout. Quand on entre chez les Jésuites, on voit saint Ignace, saint François Xavier. Il y a les saints du Carmel, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Il y a les saints du pays, Juan Diego. Il y a les saints de l'Église. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et Jésus a dit... Ma maison est une maison de prière. Et c'est ce qu'on ressentait dans la cathédrale de Mexico. C'était une maison de prière. On y célébrait l'Eucharistie. On entendait le prêtre, les paroles du prêtre et la foule qui répondait. C'était beau, reposant. C'était la vie. Donc, on continue. Après un certain repos, on se lève, et là, on veut nous faire visiter la sacristie. Et on va découvrir que la sacristie, c'est le premier bâtiment qui fut construit avant la grande basilique. Alors, c'est très ancien. Et Guillermo, notre guide, est un guide connu. Et c'est tout un protocole, vous savez, pour accéder à la sacristie. C'est pas tout le monde qui peut aller là. C'est très surveillé. Il y a du monde, hein. Il y a du monde au Mexique. Je vous dis qu'il y a 22 millions d'habitants dans la ville de Mexico. Alors, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde pour beaucoup de choses. Alors, il y a plusieurs personnes qui gardent ces lieux, qui gardent la sacristie. Alors, comme Guillermo est connu, eh bien, nous aurons le privilège d'entrer dans ce lieu qui n'est pas très grand, mais qui recèle, je dirais, les trésors de la foi de ce pays. Alors, c'est la première cathédrale de style gothique avec de grands tableaux qui sont peints. On y voit l'entrée de Jésus lors des rameaux. Ça, c'est toujours impressionnant de voir cette entrée du Seigneur. C'est la joie, hein? C'est la joie. La joie. La joie dans le cœur de Jésus aussi. La joie dans l'entourage. C'est la joie. Et c'est une joie qui est tellement forte que Jésus dira à ceux qui n'en veulent pas de cette joie-là, eh bien, essayez pas d'éliminer cela, parce que les pierres vont crier. C'est une joie tellement forte qu'elle fait crier les roches. C'est ça la joie de Dieu, qui traverse les cœurs les plus durs. La joie de Dieu, eh bien, elle fait crier les roches. L'entrée de Jésus lors des rameaux. Ensuite, nous voyons une autre toile, c'est l'Assomption de Marie. La dévotion mariale, elle est très importante dans l'Église catholique, et nous allons le voir beaucoup au Mexique, et surtout avec l'événement dont je vous parle de Notre-Dame de Guadeloupe. Eh bien, la présence de Marie est palpable. L'Assomption de la Vierge, donc. Ensuite, un grand tableau de Saint-Michel-Archange et les protecteurs de l'Espagne. Alors, il y a un lien entre l'Espagne et le Mexique. Cortés, les Espagnols qui sont venus. Donc, vous voyez, l'Espagne et le Mexique, l'espagnol, la langue, les traditions, la foi, tout cela, c'est comme un pont. C'est un pont qui va s'établir entre l'Espagne et le Mexique. Et Saint-Michel-Archange est le protecteur de l'Espagne. C'est une très très belle toile. Saint-Michel-Archange. C'est le pape Benoît XVI, vous savez, qui a fait installer dans les jardins du Vatican, en tout cas, alors qu'il était encore pape, il a demandé qu'on installe une grande statue de Saint-Michel-Archange, devant tous les scandales dont il était accablé au Vatican. Mais c'est le pape François qui a inauguré et qui a béni cette statue de Saint-Michel-Archange dans les jardins du Vatican. Et le pape François a invité le pape Benoît à ce moment-là. On les a vus tous les deux. Et pourquoi ? Pourquoi on a mis la statue de Saint-Michel-Archange dans les jardins du Vatican? Eh bien, c'est pour demander sa protection. Et lorsque Saint-Michel-Archange, on l'invoque, c'est la protection contre le démon, contre le diable, infesté. Alors, c'est très significatif. C'est que nous avons besoin d'un défenseur. Et la prière à Saint-Michel-Archange, elle est très importante. Contre toutes les forces démoniaques, quelles qu'elles soient, les plus puissantes comme les plus insidieuses, les plus cachées. Alors le pape Benoît XVI, voyant les scandales, aussi dans les murs du Vatican, eh bien, elle a demandé à ce qu'on y mette la statue de Saint-Michel-Archange, et le pape François l'a béni. Alors on peut prier Saint-Michel-Archange lorsqu'on sent justement qu'il y a des oppressions ou qu'il y a des situations qui ne sont pas roses, qui ne sont pas belles. On sent des influences qui ne sont pas celles de Dieu. Je ne suis pas un partisan qui voit le diable partout, vous savez. Mais nous sommes conscients qu'il agit et qu'il est là pour semer justement la discorde et qu'il demeure homicide. Son but, c'est de nous tuer. Son but, c'est de diviser l'humanité. Il est le père du mensonge. Alors oui, Saint-Michel-Archange. Ensuite, nous allons quitter ces lieux doucement. Nous allons voir à l'extérieur aussi des gens de Mexico qui sont habillés comme les anciens, comme les Aztèques, par exemple, et qui font des rites de leur tradition. Les gens regardent cela, ils sont habillés de toutes sortes de façons, avec des plumes. Il y a des plumes aux pieds, il y a des plumes aux genoux, il y a des plumes aux bras, il y a des plumes à la tête, il y a des plumes partout. Donc c'est assez impressionnant comme, je dirais, culture et tradition ancestrale. Alors, tout près de la cathédrale, il y a des gens qui sont là et qui rappellent ces pages historiques du Mexique et de Mexico. Nous allons nous diriger du côté de la fraternité qui nous reçoit. C'est une fraternité de prêtres. Alors, nous sommes très très bien accueillis par ces personnes et c'est là que nous allons passer quelques jours. Nous accueillerons durant plusieurs jours même, parce que Mexico étant une si grande ville, vous savez, il faut y passer un peu de temps. Alors, on y arrive, c'est le moment du repos, et comme c'est dimanche, nous n'avons pas pu célébrer la messe, alors nous allons célébrer privément l'Eucharistie de ce dimanche. Ensuite, ce sera l'heure de la collation. Vous savez qu'on mange assez tard au Mexique. C'est pas comme nous. Le repas le plus important au Mexique, bon, le matin, c'est costaud. Le matin, ça mange, parce que ça mange autour de 8 heures, là, et ils vont prendre l'autre, autour de 16 heures. Vous imaginez? Alors, le petit déjeuner est costaud. Mais ensuite, le repas principal aura lieu autour de 16 heures. Alors, ça donne tout un rythme à la journée. Et le soir, autour de 20 heures, c'est une collation. Ça ressemble à cela. En tout cas, c'est ce qu'on a vécu au sein de cette fraternité de prêtres qui nous a reçus. Alors, nous prenons la collation, donc c'est toujours le moment de se présenter. Alors moi, je suis prisonnier de cette barrière de la langue. Je ne connais pas beaucoup l'espagnol. Mais tout ce monde-là parle italien. Donc, je suis avec un collègue qui parle italien. Alors, ça parle italien. Je comprends. Je comprends ce qui se dit pour la plupart du temps. Mais quand même, ce sera toujours une limite. C'est toujours une limite. Je ne peux pas m'exprimer comme je voudrais, comme je pourrais. Alors, je suis en mode d'écoute, mais quand même, la gentillesse des uns et des autres font en sorte que je ne suis pas mis de côté. Au contraire, je suis inclus dans le dialogue. Et 11 heures du soir, alors c'est le temps de se reposer. La première journée est accomplie. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. La dame de la montagne le pria d'entrer. Petit Jean restait debout, un peu perdu dans ses pensées.
« Assieds-toi, mon garçon. »
Après un petit moment, elle lui offrit à boire et lui dit
« Tu acceptes ma seule confiance ?»«
Je ne sais pas. Je ne sais plus. »«
Tu veux atteindre la montagne impossible ?»«
Je le veux, mais je ne comprends pas. Cet arc, ces flèches... Et tous mes efforts?
Tu as bâti ta confiance sur ta force et ton habileté. Mais c'est ton travail et tes sueurs qui t'ont donné la victoire. Ton travail et ta sueur que personne ne peut détruire.
Mais pour se défendre contre les bêtes et contre toute attaque et gravir l'impossible, ne faut-il pas être fort et habile ? »
La dame de la montagne se leva, prit l'arc des mains de Petit Jean et le brisa sur son genou. Il était stupéfait. Elle fit la même chose avec les flèches. Puis, prenant la cible, elle la plaça sur la poitrine de Petit Jean avec une insistance telle que celui-ci la prit entre ses mains pour la tenir au même endroit. Il était muet d'étonnement.
« Tout ce que tu viens de vivre n'a qu'un seul but. Apprends désormais que tu es une cible. Tes flèches et ton arc ne te seront d'aucun secours pour gravir la montagne. Sache cependant que tous les efforts, tout le travail, toute la persévérance que tu as déployée pour atteindre le centre de la cible, d'autres le mettront en branle pour t'atteindre, toi. Ce que tu as mis d'adresse, de ténacité, de justesse dans ton tir, désormais tout cela sera employé avec la même vigueur contre toi. Tu n'es plus le meilleur archer, tu es dorénavant la meilleure cible. »
Ces paroles le clouaient sur sa chaise. Mais de qui pouvait-elle donc parler ? Depuis des semaines, ses yeux avaient fixé la cible. Mais quel était ce regard inconnu à redouter comme la peste ? Un long silence offrit à Petit Jean de pouvoir poser toutes ces questions qui surgissaient en lui.
« Si je suis une cible, il faudra donc à mon tour briser. »
« C'est cela. Tout est là. Va vers la porte. Il reste une flèche. Prise-la. C'est sur ma confiance en toi que s'appuie maintenant ta force. »
Petit Jean avait brisé la flèche piquée dans la porte. Songeur, il se promenait près des poules qui caquetaient. Il n'osait plus regarder l'impossible, tellement il se sentait désorienté. Sa gloire et sa puissance qui l'auréolaient, lui l'archer aux grands exploits, se traînait maintenant dans la poussière. Dégonflé, même son corps s'était affaibli, alourdi. Il se tourna tristement vers la montagne. Comme elle paraissait belle et enivrante, dans ses profonds et mystérieux replis.
Mais qui pourrait bien le prendre pour une cible ? D'où viendraient donc les flèches ? Il ne comprenait pas.
Mais il ne doutait pas des paroles de la dame de la montagne. Pépé Antoine n'avait-il pas dit qu'elle était la première étoile dans la nuit ? Elle sortit de sa chaumière et, dans sa démarche lente mais déterminée, elle vint jeter quelques grains aux poules. Elle savait bien que Petit Jean se débattait avec toutes ses pensées. Mais elle ne disait rien et ne portait pas son regard vers lui. Les mains sur les hanches, elle se mit à regarder fièrement l'impossible. On eût dit qu'elle en était la propriétaire. Elle semblait n'en ignorer aucun secret. Petit Jean se mit à penser à l'escalier aux 7 marches. Encore 6. Le vertige s'emparant de lui, il n'osa plus regarder la montagne. Tous les deux mangeaient à la même table. Elle lui avait offert de rester, s'il le voulait bien. Soigneusement, elle gardait ce souci de la liberté pour ne jamais emprisonner l'autre dans ses gestes ou paroles. Toutefois, dès qu'elle voyait ouverte la voie de la liberté, sa main de fer tranchait le vrai du faux, l'accessoire de l'essentiel. Petit Jean mangeait avec appétit.
« Tu as faim, je crois. Mange, mon garçon. » « Il te faudra encore des forces. C'est pour demain la deuxième marche ?»«
C'est toi qui décides. »«
Maintenant, je peux ?»«
Tout dépend, mon garçon. »«
Tout dépend de quoi ?»«
En toi. Est-ce le jour ou la nuit ?»
Petit Jean fut embêté. Il hésitait.
« C'était le jour, mais c'est le brouillard maintenant. »
Quand on a terni les étoiles,
Il faut attendre une autre nuit pour qu'elle brille à nouveau.
Je ne comprends pas.
De puissantes étoiles brillent en toi, celles de la force, de la puissance. Par mes paroles et mes gestes, je les éternis. Il te faut donc attendre une autre nuit pour récolter une autre moisson d'étoiles. Le temps est ton ami. Oui, l'opaque nuit avait envahi le regard de Petit Jean. Pourquoi vouloir monter la deuxième marche quand on a perdu l'escalier, se disait-il. Dehors aussi, c'était la nuit. Fatigué, il s'endormit dans un petit coin qu'il s'était aménagé, non loin du seuil de la porte. Déjà, des étoiles se préparaient à crever la nuit. Les poules le réveillèrent. Tranquillement, le soleil entrait dans la petite chaumière. Regardant par la fenêtre, il vit la dame de la montagne qui jetait des grains aux poules. Il se leva et la rejoignit. Elle leur parlait comme à des enfants, soucieuse de donner à chacune sa part de nourriture. Quelle vie jaillissait de ce petit enclos de broches! Petit Jean se sentit heureux devant la simplicité du spectacle qui se déroulait devant lui. La dame de la montagne lui cria tout à coup
« Hé, tu m'apportes de l'eau ?»«
Oui, mais où dois-je la puiser ?»«
Cherche !»
Petit Jean se mit à regarder tout autour. L'eau devait bien se trouver quelque part, mais il ne voyait rien. Y avait-il un puits ?«
Elle vient, cette eau ?»«
Quelle eau ?» Je ne la trouve pas. Dois-je aller à la rivière?
La rivière est trop loin. Cherche le puits.
Il se mit à ratisser de fond en comble les abords de la chaumière, ceux de l'enclos des poules et du petit jardin tout près, mais toujours rien. Où diable pouvait bien se trouver ce puits sur cette montagne pointue?
J'ai cherché partout. C'est peine perdue.
Une peine n'est jamais perdue,
reprit la dame de la montagne sérieusement.
Tu es certain d'avoir regardé partout?
Je ne trouve pas de puits, ni d'eau ici.
Laisse faire, mon garçon, j'y vais.
Elle sortit lentement de l'enclos des poules, puis se dirigea vers la chaumière. Petit Jean ne la laissait pas des yeux. Qu'allait-elle donc faire dans la chaumière? Elle entra et referma la porte. Il n'y comprenait plus rien. Voyant qu'elle tardait à revenir, il risqua à entrer dans la chaumière. Ouvrant la porte, il ne vit personne. Où était-elle passée? Il cria.
« Hé ! Je suis là !»
Tout à coup, il entendit sourdement
« Moi aussi, je suis là. »
Petit Jean découvrit que la voix venait des profondeurs. S'avançant un peu, il vit qu'une trappe s'ouvrait sur le plancher et qu'un petit escalier y descendait. Craintif, il osa se rendre sous le plancher. Une chandelle éclairait faiblement la dame de la montagne qui remontait l'eau du puits. L'eau était donc sous la maison. Petit Jean s'offrit à prendre le seau, mais elle refusa. Ensemble, ils remontèrent et se rendirent jusqu'au pôle assoiffé. Petit Jean demanda.
« Pourquoi le puits sous la chaumière ?»«
L'eau, c'est comme le cœur. Elle doit être à l'abri. »«
Oui, mais pourquoi sous la chaumière ? Ce serait si facile dehors. »
Les ennemis sont nombreux, petite cible. Je préserve l'eau des contaminations. Dehors, ce serait si facile. Tu as bien raison. Une bête peut s'y noyer, un poison peut y être jeté, qui sait? L'eau, c'est la vie. Voilà pourquoi le puits est sous la maison. comme le diamant dans l'écrin. Là, elle est en sécurité. Tu comprends ? Petit Jean n'en revenait pas. Tendant le seau, il lui dit
« De l'eau, encore pour les poules. »
Il prit le seau en souriant et courut jusqu'à la chaumière. Puisant au puits, il se dit en lui-même
« L'eau, c'est comme le cœur. Elle doit être à l'abri. »
La journée avait bien commencé pour Petit Jean. Autour de lui, un nouveau monde était en train de se mettre en place, avec la montagne pointue, les poules dehors, le puits dedans et l'impressionnant impossible. Ce petit décor lui plaisait et la présence de la dame de la montagne lui était rassurante. Souvent, il la regardait, épiait ses moindres gestes, attentif à toutes ses paroles. Il apprenait à trouver le vrai sens des paroles qu'il disait. De nouvelles étoiles s'étaient allumées dans le ciel de son cœur. Et comme il s'était assis sur le seuil de la porte, il dit à la dame de la montagne
« Les étoiles sont revenues !»
Elle garda le silence. Petit Jean n'osait reparler. Les poules caquetaient toujours.
« Dis, tu les manges, tes poules ?»«
Oui. »
« Je mange leurs œufs. »« Tu les fais cuire, tes poules ?»«
Non. »« Leurs œufs seulement. »«
Mais pourquoi ?»«
C'est moi qui les nourris, qui leur apporte tous les jours du grain et de l'eau. »« Et je les fais recuire ?»«
Les œufs me suffisent. »
Petit Jean pensa soudainement aux milliers de poules que le monde dévorait tous les jours.
« Si tous les gens faisaient comme toi, qu'arriverait-il »«
Ils mangeraient les œufs et se réjouiraient de nourrir les poules. »«
Et alors ?»«
Ils auraient plus de joie. »«
Plus de joie ?»«
Parce qu'ils pensent à leur ventre. Ils produisent les poules. » Mangent leurs œufs et leur chair, mais perdent la joie de les entendre caqueter et se grouper autour d'eux.
Mais lorsqu'on a faim, on peut bien manger des poules, non ?
Je ne te dis pas qu'on ne peut pas manger les poules. Je te dis que moi, je préserve ma joie.
Quelle joie ?
La joie simple de les nourrir chaque matin. En les entendant caqueter. Voilà tout.
De plus en plus étonné, Petit Jean était peu convaincu des propos de la dame de la montagne. Un monde vraiment organisé est un monde qui mange les poules, pensait-il. Préparant la pâte pour les galettes qu'elle s'apprêtait à faire, elle lui demanda finement.
« Tu veux m'apporter les œufs dans l'armoire ?»«
Je ne vois pas d'œufs. »
Dans le panier, mon garçon. »
Mais il est vide. Il n'y a plus d'œufs. »
Heureusement qu'il y a les poules, dit-elle avec un petit sourire qui imita bientôt Petit Jean.